Elle mesure en moyenne 9 cm de long, elle est dotée de muscles très puissants et tapissée de nombreuses papilles. C'est une bonne travailleuse qui nous est indispensable pour capter les saveurs, mastiquer, avaler et émettre des sons. Mais elle est aussi un témoin clé de notre état de santé. Bienvenue dans les secrets de la langue. C'est donc le dossier de la tête au carré cet après-midi pour bien commencer la semaine avec mes invités qui répondront bien sûr sans langue de bois à toutes vos questions, franceinter.fr et puis également sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, la France toujours droguée aux pesticides, 9% d'utilisation en plus des produits phytosanitaires entre 2012 et 2013. Un nouveau plan présenté vendredi et qui suscite déjà le scepticisme vise à diminuer les quantités de pesticides de 50% d'ici à 2025. On en parle dans un instant avec vos messages courts sur le compte Twitter de La Tête au Carré. Violaine Ballet réalise cette émission qui a été préparée par Fanny Cohen-Moreau avec Axel Villard.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Didier Gauzeran et Bernard Pella, bonjour, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes nos deux spécialistes de la langue. Didier Gauzeran, si je vous tire la langue, est-ce que vous êtes capable de me dire si je suis en bonne santé ?
Ben écoutez, la langue, au même titre que l'ensemble des muqueuses buccales, j'ajouterais de l'état bucco-dentaire en général, peut être le témoin effectivement de pathologies générales qui vont présenter des manifestations buccales. La liste serait peut-être très longue à détailler. Et à l'inverse, on peut également avoir des retentissements sur le plan général de pathologies bucco-dentaires. Je vais rester très, très, très général.
On rentrera dans les détails tout à l'heure avec vous.
Et on pourrait citer l'exemple du diabète, par exemple, qui aggrave toutes les pathologies gingivales. Mmh. Et à l'inverse, les pathologies gingivales, on le sait très bien, affectent négativement l'équilibre glycémique d'un diabétique.
Bon, donc il y a beaucoup d'indicateurs sur cette langue.
Il y a beaucoup d'indicateurs. J'aurais tendance à dire que la cavité buccale dans son ensemble, et la langue peut-être en particulier, peut-être parfois le miroir de l'état de santé de l'organisme et peut renseigner sur l'hygiène de vie des patients, sur une addiction tabagique, sur un comportement alimentaire particulier, sur un état de stress aussi.
Donc on va regarder dans ce miroir avec vous tout à l'heure.
Miroir,
Bernard Pella, est-ce qu'on est capable de créer des langues artificielles aujourd'hui ?
Alors oui, on peut faire une langue artificielle, mais il faut savoir ce qu'on veut faire avec. Alors la littérature est très riche en dispositifs de ce type. On appelle ça des e-tongues,
oui.
Des langues électroniques. C'est très réducteur.
Oui, parce que c'est quoi au fond ? Alors ça ressemble à quoi une langue artificielle ?
Ce sont des capteurs qui vont essentiellement percevoir des éléments sapides de type ionique, des ions. Mm-hmm. Et donc ils réduisent un petit peu la perception gustative à ces ions. Alors on verra tout à l'heure, cette perception est beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus élaborée. Il y a tout ce qui est tactile, tout ce qui est thermique, tout ce qui relève de ce qu'on appelle la somesthésie qui échappe à ces langues. Donc c'est quelque chose d'assez réducteur, mais qui permet de faire des classifications pour les industriels. Ça sort, c'est publié d'ailleurs dans des revues qui sont... plus à destination des industriels que des chercheurs en santé.
En tout cas, on essaiera d'en discuter sans faire de xyloglossie, c'est ça ? C'est un néologisme de chez vous ?
C'est un néologisme, la xyloglossie, c'est la langue de bois.
Voilà, exactement.
Inspiré du grec.
Notre dossier tout à l'heure, franceinter.fr, avec toutes les questions des auditeurs. À la une de la science aujourd'hui, un nouveau plan national pour réduire de 50% l'usage des pesticides en France d'ici 2025. C'est donc le plan Ecophyto 2 qui a été présenté par le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll vendredi et qui laisse pour l'instant, en tout cas c'est le sentiment, tout le monde un peu perplexe, agriculteur ou écologiste. Nadine Leverja, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission pour l'association Génération Future. Hervé Kempf est à nos côtés. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Journaliste pour le site Reporter. Hervé, justement, c'est un plan en deux étapes qu'a présenté le ministre de l'Agriculture, c'est ça ?
Oui, d'abord c'est donc la suite d'un premier plan qui avait été lancé après le Grenelle de l'environnement en 2008, qui en résumé a échoué.
Complètement, oui.
Pas tout à fait complètement. Enfin, Nadine Leverja nous dira, mais disons que ça n'a pas atteint les objectifs prévus. Et donc c'est effectivement une première présentation des axes de ce plan qui a été fait par le ministre Stéphane Le Foll le 30 janvier dernier. Et il sera annoncé un nouveau plan éco-phyto en juin 2015, après une consultation publique.
Et l'objectif principal de ce deuxième plan, qui sera ?
Toujours de réduire la consommation de pesticides en France, avec un objectif de réduction de 50% en 2025.
Voilà, c'est-à-dire demain quand même, hein. Ça va être très, très rapide.
Et moins 25% en 2020.
C'est ça, Nadine Loverja, premier plan donc Ecophyto 1, qui prévoyait donc déjà hein, 50% de réduction des produits phytosanitaires. On peut parler d'échec cuisant quand même, non, pour ce premier plan?
Ah bah, les constats est là, de toute façon là-dessus, vous annonciez les chiffres, plus 9% en 2013, alors sur année glissée, ça fait plus 5% entre 2010 ouais. et 2013. Donc en effet, le constat d'échec, il est là, donc une révision du plan était nécessaire de toute façon, on n'en pouvait pas continuer ainsi, donc si on veut continuer atteindre, ou en tout cas essayer d'atteindre cet objectif de réduction de moins 50%, qui est encore affiché, ce qui est quand même une bonne chose. Nous, notre crainte, c'était que finalement, cet objectif passe par perte et profit, et qu'on en arrête là, et qu'on essaye d'avancer sur du moins 20%, ce qui est assez facile à faire techniquement. Donc oui, l'échec, il est évident, et cette révision, on espère, en tout cas, nous permettra d'aboutir à ces moins 50% d'ici ouais. 2025. C'est demain, c'est vrai.
Oui, c'est tôt, hein, quand même, ouais. 10 ans pour y arriver. Vous y croyez, franchement, ou pas?
Bah, on est plutôt de nature optimiste, donc on va y croire, bien sûr. Ouais. C'est pour ça qu'on s'appelle Génération Future, d'ailleurs. Mais si on met les moyens, en tout cas, sur la table, on sait que c'est possible. On a dans des zones, notamment, je pense, en Normandie ou en Picardie, où les transferts de compétences se sont faits entre les chercheurs et les agriculteurs. On a atteint cet objectif de moins 50%, avec d'ailleurs une rentabilité meilleure sur 4 années sur 5 que des fermes qui n'ont pas réduit leur quantité de pesticides. Donc si on donne les moyens à la recherche et aux techniciens aussi, c'est-à-dire qu'il faut former des gens sur le territoire pour pouvoir donner les outils aux agriculteurs de réduire de 50% leurs pesticides, c'est possible, oui. Ça fonctionne et c'est mieux économiquement et évidemment sanitairement et écologiquement.
Qu'est-ce qui a expliqué justement l'échec du premier plan?
Clairement une résistance de la profession, du lobby dominant pour ne pas citer, en tout cas la FNSA, c'est sûr, a joué probablement le rôle pas un rôle moteur alors qu'elle aurait dû jouer ce rôle moteur. Il y a un manque de transfert de compétences aussi, hein. Il manque des techniciens dans les chambres d'agriculture pour aider les agriculteurs à modifier leurs pratiques, parce que c'est vrai, c'est technique. C'est-à-dire qu'on ne change pas d'une molécule à une autre, ça veut dire qu'il faut aller en profondeur, faire évoluer le système agronomique, ouais. Semer moins.
Donc il y a beaucoup de pédagogie aussi. Hein.
Énormément de pédagogie, de la formation continue, de la formation initiale, il faut la revoir complètement pour que ça fonctionne. Sinon, on voit bien, on en est encore à un constat d'échec. Ouais. Mais ce ne sera pas suffisant. C'est-à-dire que derrière aussi, c'est un peu la carotte et le bâton, c'est-à-dire qu'il faut récompenser les bons et punir entre guillemets les mauvais, notamment avec ce système de certificat d'économie de pesticides qui est proposé dans le cadre de rapport Potier et qui est repris dans le cadre du CNOS, qui pour nous est un outil intéressant parce que du coup, elle tape entre guillemets sur les distributeurs et pas sur l'agriculteur.
Oui, les mentalités ont changé avec EMF, selon vous, là, depuis 10 ans, pour attaquer un nouveau plan ou pas?
On sent que chez beaucoup de la profession agricole, qui est en l'occurrence essentiellement des céréaliers, ça évolue très difficilement. D'abord parce que Nadine Loverja l'a rappelé, et il faut le souligner, la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, qui est le premier syndicat agricole en France, est d'accord du bout des lèvres, mais en pratique freine des cas de fer, et que beaucoup d'agriculteurs qui sont dans une situation souvent difficile ont très peur de perdre en compétitivité si ils réduisent leur consommation de pesticides, parce que le pesticide, malgré tout, il faut le rappeler, ça a un effet positif. Dans le sens où ça peut éliminer des herbes adventices, des insectes, oui. Des champignons. Ceci dit, à un coût économique qui est important. Et ça, c'est sans doute le plus intéressant dans les expériences positives qu'il y a, c'est que les agriculteurs qui sont engagés dans cette démarche le font aussi pour des raisons économiques, parce que les pesticides, ça coûte cher.
Ouais. Et puis pour des raisons sanitaires quand même.
Absolument.
Parce que là, on voit quand même des problèmes de santé très graves, hein, d'abord auprès des agriculteurs.
Tout à fait, il y a de plus en plus de reconnaissance en maladie professionnelle sur certaines pathologies, notamment Parkinson ou des cancers, type le cancer du cerveau ou des lymphomes. Donc là aussi, c'est vrai que l'agriculteur, aujourd'hui, il peut punir que l'exposition à un produit n'a pas d'impact, n'a pas de risque pour la santé et pour l'environnement aussi. Donc c'est vrai que c'est parfois un moteur qui les fait changer de système aussi.
Oui, Bernard Pella, justement, sur la santé, vous avez participé à des rapports pour la MSA, c'est ça, sur cette question-là?
Non, je suis dans un comité scientifique et proche de la MSA, mais je peux me porter témoignage que les praticiens conseils sont très sensibles à ça et essayent de développer un certain nombre de choses. Enfin, la MSA, elle subit... Et elle est un très bon observateur des pathologies générées par ces pesticides.
Et qui sont nombreuses.
Du cancer,
et qui sont de plus en plus nombreuses,
de plus en plus nombreuses, absolument.
Alors, donc... ouais, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de chiffres parce que les reconnaissances en maladie professionnelle, notamment obtenues via la MSA, sont peu connues et peu diffusées nationalement. Et puis après, il y a des agriculteurs qui passent par les tribunaux pour obtenir leur reconnaissance. Et là, on n'a pas les chiffres sur ça.
Alors, quelle solution, justement, aujourd'hui, pour des agriculteurs qui souhaitent réduire concrètement leur consommation de pesticides?
Alors, ça dépend évidemment des cultures, mais sur la grande culture, aujourd'hui, on sait faire techniquement. Il y a des chercheurs chercheurs qui ont beaucoup œuvré là-dessus. Je parlais de la Picardie. Il y a un centre qui s'appelle AgroTransfer qui aide justement avec des chercheurs à faire évoluer les pratiques. L'INRA de Grignon a beaucoup travaillé sur les grandes cultures. Donc ça veut dire faire des rotations beaucoup plus longues, semer moins dense, avec des variétés plus résistantes aux maladies, semer plus tardivement. Donc sur la grande culture, techniquement, on sait faire. C'est à peu près d'ailleurs 70% des usages de pesticides. Donc quand on avancera beaucoup bien là-dessus, on réduira fortement. Après reste la viticulture qui représente à peu près 20% des usages de pesticides. Mais là aussi, techniquement, on sait faire. En Alsace, par exemple, il y a eu beaucoup de conversions en bio. C'est pareil, on a des techniques agronomiques qui permettent finalement de sauvegarder, en tout cas, ou de prémunir un certain nombre de maladies, avec aussi des variétés résistantes, ça fonctionne. Donc. Et puis, l'un des systèmes qui est mis en avant dans le cadre du plan par M. Le Foll, c'est les biocontrôles. Alors c'est intéressant parce que ça permet d'apporter des outils qui sont moins problématiques d'un point de vue sanitaire que des pesticides à proprement parler. Mais attention, il faut aussi évidemment changer son système en profondeur pour que ça fonctionne, parce qu'on ne remplace pas un produit A par un produit B, sinon on maintient la dépendance finalement au produit.
Hervé Kempf, justement pour Reporter, vous avez trouvé, vous, des agriculteurs qui avaient changé vraiment leurs pratiques?
Oui.
Et qui y sont parvenus?
Émilie Massemin, pour Reporter, a effectivement trouvé un agriculteur qui est tout à fait exemplaire. Enfin, je pense qu'il y en a d'autres comme lui.
Oui.
Antoine Lambert, qui est dans l'Eure, et qui a appliqué les méthodes qui viennent d'être décrites. Et peut-être qu'on peut souligner quelque chose, c'est que, les solutions sont agronomiques. C'est-à-dire, c'est un savoir-faire essentiellement d'attention, d'observation. Ça, c'est un premier point. La deuxième point qu'on peut dire, d'après l'expérience d'Antoine Lambert, qui est très intéressante, c'est qu'il y a aussi une dimension de travail en commun. C'est-à-dire, lui avait une préoccupation économique au départ, parce qu'il trouvait que les pesticides lui coûtaient cher. Il a 140 hectares, hein, c'est vraiment un exploitant agricole sérieux, important. 140 hectares, les pesticides lui coûtaient cher, et il s'est engagé dans une démarche, dans un groupe de travail en commun. Et donc, il y a eu un échange de savoir. On parlait de technicien agricole, c'est pas seulement un technicien agricole qui vient, c'est des groupes d'agriculteurs qui se mettent ensemble, qui réfléchissent, qui améliorent leur technique et qui progressivement améliorent beaucoup, puisque lui, en l'occurrence, il a réduit en 10 ans sa consommation de pesticides de 50%.
Voilà, et il parle également beaucoup dans cet article de l'enjeu de santé publique avec beaucoup de ses collègues. C'est ce qu'il dit, agriculteurs qui n'arrivent pas à l'âge de la retraite, donc c'est aussi un facteur de sensibilisation très fort pour ces personnes. Donc Ecophyto 2, nouveau plan, on verra. On se donne rendez-vous dans 10 ans.
Ouais, j'espère avant pour qu'on puisse parler des premiers résultats.
On a bien diminué les doses de pesticides. Merci beaucoup Hervé Kempf et Nadine Lauverja.
Merci.
Allez, puis en bref, dans le reste de l'actualité, c'est confirmé, les ondes gravitationnelles du Big Bang n'ont pas été détectées. Les équipes américaines du satellite Planck et de Bicep 2 reviennent sur leurs résultats publiés en mars 2014. Ils reconnaissent avoir confondu des possibles traces d'ondes gravitationnelles avec des signaux générés par la poussière galactique, cette poussière qui circule en permanence dans notre voie lactée. En résumé, donc, les scientifiques ne disent pas que ces ondes n'existent pas, mais qu'il est pour l'instant impossible de prouver leur existence. De nouveaux tatouages découverts sur le corps momifié d'Otzi, la plus célèbre momie vieille de 5300 ans, grâce à une technique d'imagerie multispectrale, des bâtonnets de quelques millimètres d'épaisseur ont été dévoilés sur la partie inférieure droite de la cage thoracique. Cette découverte élève donc à 61 le nombre de tatouages sur cette momie, découverte dans le massif alpin des Dolomites, et actuellement conservée au musée d'archéologie du Tyrol en Italie. Cependant, les chercheurs s'interrogent toujours sur le rôle qu'ont pu avoir ces tatouages à l'époque préhistorique. Et puis enfin, on apprend que le pénis de l'ours polaire serait fragilisé par la pollution, justement, par le jeu des courants marins et atmosphériques. Des produits chimiques de la famille des polychlorobiphényles se sont retrouvés dans la chaîne alimentaire de l'ours polaire. Ces molécules bannies depuis des décennies pour leur toxicité diminuent la densité osseuse du baculum des ours, l'os situé donc dans leur pénis. Selon les chercheurs danois et canadiens qui ont mené l'étude, cette fragilisation du baculum décuple les risques de fracture lors de l'accouplement et donc le risque d'extinction de l'espèce. Un dossier sur la langue, c'est dans un instant dans La Tête au Carré.
Hey, Mr. Churchill comes over here to say we're doing splendidly. But it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough, can you stop the cavalry? Say, oh yes, yet again, can you stop the cavalry? Mary Bradley waits at
wish I was at home for Christmas. Bang, that's another bomb on another town while the Czar and Jim have tea. If I get home, lift up, tell the tale, I'll run for all presidencies. If I get elected, I'll stop. I will stop the cavalry. Wish I was at home for Christmas. Wish I could be dancing now in the arms of the girl I love. Mary Bradley waits at home, she's been waiting 2 years long. Wish I was at home for Christmas.
John Al Lewy avec Stop the Cavalry à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Qu'est-ce qui se cache sous la langue ? C'est donc le dossier cet après-midi de La Tête au Carré. Didier Gauzeran, vous êtes praticien hospitalier, chef de service honoraire des hôpitaux de Paris. Vous êtes spécialisé en chirurgie maxillo-buccale et dans les pathologies des muqueuses buccales. Vous avez publié, entre autres, un livre, Des lésions à risque au cancer des muqueuses orales aux éditions CDP. Ce n'est pas un livre à mettre entre toutes les mains, vous êtes d'accord avec moi, hein ? C'est
non,
pas terrible au niveau des photos.
Non,
hein.
Au niveau photos, les âmes sensibles oui. doivent s'abstenir.
Je peux vous le confirmer, oui. dans notre bureau, à La Tête au Carré en particulier. Bernard Pella, vous êtes vous biochimiste, professeur émérite à Paris Descartes et ancien doyen de la fac de chirurgie dentaire donc de Paris Descartes. Et vous allez répondre à toutes les questions des auditeurs qui arrivent déjà nombreuses sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Didier Gauzeran, la langue finalement c'est un organe assez méconnu hein, et qui peut pourtant, on le disait tout à l'heure, apporter des renseignements assez précieux sur l'état de santé physique des personnes, physique et même psychique, c'est ça ?
Oui, alors il y a des pathologies qui sont d'ailleurs des pathologies, je ne sais pas si on peut les appeler des pathologies dans l'état actuel de nos connaissances, mais il y a manifestement, et c'est un motif de consultation fréquent, des gens qui se plaignent de brûlures, de sensations de picotement, de fourmillement au niveau de la langue.
Oui.
On appelle ça des glossodinies.
Oui.
Glosso-langue et puis dinies, c'est grec douleur. Donc ce sont des gens qui ressentent ce genre de gènes, mais qui peuvent être un handicap constant au niveau de la journée. Alors, d'aucuns pensent que cette glossodinie que nous maintenant on classe dans les paresthésies buccales psychogènes,
oui,
donc ça dit bien ce que ça veut dire.
Ah oui, absolument, c'est clair comme de l'eau de roche.
Clair comme de l'eau de roche. D'aucuns pensent que ces paresthésies buccales psychogènes déclenchent une dépression et d'autres à l'inverse pensent que ces paresthésies buccales font partie de la dépression. Et moi j'avoue que dans ma pratique en 30-40 ans d'exercice, je serais plus enclin à penser que ces paresthésies buccales psychogènes font partie de la dépression et quelque part...
Donc ce serait des effets de la dépression ?
Oui, sont le témoin d'une dépression masquée et très souvent, parce que c'est un motif de consultation fréquent encore une fois,
ouais.
Très souvent je fais appel au psychiatre pour traiter ce genre de choses.
Ah vraiment ?
Et effectivement le psychiatre décèle une dépression qui était masquée jusqu'à présent.
Mmh. Est-ce qu'on montre assez notre langue aux médecins justement ? Est-ce que les médecins s'intéressent aussi suffisamment à notre langue ?
Alors ça c'est un vaste problème. J'étais un expert à l'Institut National du Cancer et on a fait, il y a quelques années, un grand élan de formation auprès des médecins généralistes pour qu'ils examinent les cavités buccales des patients à risque, on y reviendra sûrement tout à l'heure, notamment dans la détection précoce des cancers de la bouche.
Oui.
et en insistant sur justement l'examen systématique de la cavité buccale par les généralistes.
Ce qui n'est pas le cas.
Et malheureusement, je ne vais me fâcher avec personne, mais c'est loin d'être le cas.
Bon, les dentistes, eux, ont un rôle important, évidemment. Ah, parce qu'ils sont les premiers à pouvoir nous alerter, justement.
Les dentistes ont un rôle considérable, dans la mesure où leur domaine de prédilection, c'est la bouche. Hein. Mm-hmm. Et si on compte le nombre de centaines de milliers de bouches qui sont examinées par jour.
C'est ça.
Mais les dentistes jouent bien leur rôle dans la détection précoce, sont au courant et font très attention aux pathologies des muqueuses buccales et de la langue en particulier.
Avec les lésions en particulier, les petites lésions sur la langue qui peuvent se loger donc dans la bouche et qui ont des choses là aussi à apprendre, qui peuvent alerter.
Oui, absolument. Je peux citer une anecdote, un cas que j'ai eu l'année dernière d'un patient qui m'a été adressé avec une petite ulcération du bord gauche de la langue, je me souviens très bien, une ulcération totalement indolore. Et puis, en fin de compte, je me suis orienté vers un diagnostic avec l'interrogatoire, bien entendu, du patient. Je vous passe les détails de la démarche diagnostique. Et je me suis orienté vers un chancre syphilitique.
C'est-à-dire
une maladie sexuellement transmissible, syphilis, qui entraîne dans les syphilis primaires des petites ulcérations au niveau des muqueuses. Et ça peut être la langue, justement, dans le rôle que la langue peut jouer dans...
On vous comprend.
Vous m'avez compris, les enfants sont à l'école à cette heure-là. Vous m'avez quand même compris. Et cette syphilis, c'est une manifestation au niveau de la cavité buccale d'une maladie qui évidemment touche l'ensemble de l'organisme. Ouais. Et je voudrais rajouter simplement un dernier point, c'est que la syphilis, dans les années 2000, on avait à peu près 40 cas. Ça, c'est l'Institut national de la veille sanitaire qui le signale. Et dans les années 2012, on a 900 cas. Il y a une recrudescence énorme de la syphilis en France.
Bon, donc montrez bien votre langue au médecin. C'est le message sanitaire de cette tête au carré. Au moins, cet après-midi, s'il faut retenir une chose, c'est peut-être celle-là. Bernard Pella, on va parler beaucoup du goût avec vous, le rôle justement de la langue sur le goût. Un message de Vieron sur franceinter.fr, il demande ceci, est-ce que la langue a perdu de ses facultés au cours de l'évolution ?
Écoutez, j'en sais rien, mais a priori, je penserais que c'est plutôt le contraire, parce que la diversité des stimuli liés à l'évolution, notre évolution sociétale, fait qu'on a dû s'adapter à des goûts nouveaux, à des tas de choses, et j'aurais tendance plutôt à dire qu'effectivement, ça s'est plutôt développé.
Bon, description de la langue, Didier Gauzeran. On va faire un petit cours d'anatomie très rapide. L'aspect de la langue, d'abord, ça doit ressembler à quoi ? On disait 9 cm d'abord tout à l'heure, c'est ça ?
Oui, ça dépend un peu des individus, mais enfin, globalement, oui, ça peut être à peu près ça. Alors, l'aspect de la langue, normalement, il doit être un fond rosé, avec une multitude de petits points blanchâtres qui correspondent à des papilles, dans l'aspect normal, j'entends. Ces papilles, elles sont de plusieurs aspects. On a des papilles filiformes, qui sont des espèces de petites pointes qui sont réparties sur toute la surface de la langue, la partie dorsale de la langue, la partie visible. Ces papilles ont un rôle tactile essentiellement. Et puis au milieu de ces petites papilles filiformes, on a des espèces de petites monticules, des petites boules qui font 0,5 mm de diamètre. On appelle ça les papilles fongiformes, qui ont un rôle important dans la captation des sensations gustatives. Et puis, il y a d'énormes papilles qui sont à la jonction de la partie mobile de la langue et de la base de la langue qui est beaucoup plus en arrière. Des papilles dites caliciformes, qui sont les bourgeons du goût à proprement parler. Qui sont
En a beaucoup ou pas ?
On en a 9.
Ah, c'est tout ?
De ces papilles caliciformes, les grosses, que l'on voit très bien chez des gens qui, notamment... Pour revenir au stress et à l'anxiété, des gens qui tirent la langue 20 fois par jour pour l'examiner, qui rentrent dans le cadre de leur pathologie anxio-dépressive. Et chez eux, on voit ces grosses papilles caliciformes, ces gros bourgeons du goût, qui est un motif aussi d'inquiétude en disant « Docteur, pourquoi ai-je des boules comme ça sur la langue ?» Alors que si vous faites une protraction de votre langue à l'état normal, vous ne voyez pas ces papilles-là.
Ouais.
Donc voilà, la muqueuse de recouvrement dans la partie mobile de la langue, qui représente les deux tiers de la langue, comprend ces papilles filiformes, fongiformes. Sur les bords, on a des papilles foliées, qui ont un rôle éventuel dans la gustation, mais qui sont surtout dans la partie postérieure des organes lymphoïdes, au même titre que les amygdales, qui ont ces systèmes de défense. Et le tiers postérieur de la langue, qui est la partie pharyngienne de la langue, oui. qu'on ne voit pas.
Voilà, c'est ça. Donc c'est normal. Le dernier tiers, c'est ça hein
c'est le dernier
sur les 9
tiers,
cm dont on parlait tout à l'heure.
C'est ce qu'on appelle la base de la langue. Et sa muqueuse de recouvrement est constituée d'amygdales linguales. Encore une fois, ce sont des organes lymphoïdes dans le système de défense.
Bernard Pella, justement, ces papilles du goût, est-ce que chaque papille est associée à un goût particulier ou il y a un vaste mélange dans notre langue ?
Alors, on l'a cru pendant très longtemps.
Ouais. On avait fait une carte géographique quasiment.
Absolument, il y avait une carte. Et on voit encore ça dans certains ouvrages d'énologie pas tout à fait mis à jour. On voit une carte avec la perception d'un certain nombre de choses. En fait, il n'en est rien. Il y a une grande diversité. Et en fait, l'ensemble de ces papilles perçoivent les 5 saveurs de la sapidité qui sont habituellement décrites. Le salé, le sucré, l'acide, l'amer et l'umami. Et en fait, à l'intérieur de chacune des papilles qu'a décrit Didier Gozeran, on peut percevoir la totalité de ces saveurs élémentaires.
Un courriel de Mohamed sur franceinter.fr, il nous dit ceci, il a repéré une publication, un dispositif actuellement à l'essai et qui permettrait d'entendre grâce à la langue. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? C'est très récent, je crois, Bernard Pella, hein. La publication est sortie il n'y a pas très longtemps.
Oui, alors...
Entendre grâce à la langue?
Oui, alors on n'entend pas avec la langue, mais il y a un dispositif, évidemment, il y a un microphone qui est installé et qui est relié. Et l'idée, c'est de relier les signaux enregistrés par ce microphone, de les relier à l'innervation de la langue qui est extrêmement riche.
Donc il y a des impulsions électriques, en fait, c'est voilà, ça, qui seraient favorisées.
Et qui sont reprises par les fibres nerveuses que l'on retrouve dans la langue et qui sont ramenées, effectivement, au cerveau par voie bulbaire, puis... cortical.
Bon, donc apparemment, c'est assez complexe.
C'est assez complexe et d'après ce que j'ai lu rapidement, il y a toute une éducation qui doit se faire derrière, puisqu'il faut réhabituer le cerveau à percevoir, à analyser des signaux qui sont atypiques.
Voilà, et ça coûte très cher apparemment aussi, comme intervention chirurgicale. Mais apparemment, une fois le cerveau rééduqué, le système pourrait permettre aux personnes malentendantes de suivre n'importe quelle conversation. Donc évidemment, il faut voir comment les chercheurs arrivent à développer ce dispositif. Allez, d'autres questions, d'autres évocations de la langue, c'est dans un instant, dans La Tête au Carré, les messages sur franceinter.fr.
Colonel chagrin, colonel de plomb, pleure des canadaires et des cotillons, pour une fille partie, colonel de pluie, s'ennuie. Pleure donc pas comme ça, colonel bidon. Si t'es un garçon, si t'es un garçon, les filles c'est des connes, colonel marron. Et toi t'es qu'un con. Colonel vaurien, caporal miné, joue les astronautes et dans les nuées. Tu cherches rien d'autre, tu cherches rien d'autre que ta bien. Comme ça, colonel mouillé, à regarder le ciel, à penser qu'à elle, c'est fini les balles, les Negresco, colonel. Mm-hmm.
chagrin, Camélia Jordana et Jean-Michel Montu. Bien sûr, pour la programmation musicale de notre Tête au Carré, consacrée donc à la langue, l'organe, avec mes invités Didier Gauzeran et Bernard Pella. Et vos courriels, très nombreux, beaucoup de questions, très variées d'ailleurs, hein, sur franceinter.fr, également sur Twitter. Damien, tiens, nous dit ceci, tout ce qui est piercing ou tongue split, langue de serpent, se couper la langue, est-ce que ça a des incidences graves sur la langue, au niveau des muscles ou des infections? Didier Gauzeran.
Alors la tongue split, c'est-à-dire rendre la langue bifide à son extrémité, bon, il faut savoir que c'est un acte chirurgical, hein, oui. Donc ça ne doit pas être fait dans l'arrière-fond d'une boutique de piercing ou autre, ça répond à des gestes chirurgicaux. À partir du moment où c'est fait de manière stérile, avec coagulation des bords coupés de la langue et une cicatrisation, il n'y a pas d'incidence.
Ah oui, bon.
Par contre, le piercing, oui, situé au milieu de la langue, peut avoir des conséquences assez dramatiques.
Lesquelles?
Alors, conséquences infectieuses essentiellement. Parce qu'il faut savoir, c'est que la langue est... Plus généralement, le plancher buccal et le carrefour entre la bouche et le pharynx, c'est la bouche et la gorge, si vous voulez. Mmh. C'est une zone qui est très richement vascularisée, très très riche en lymphatique. Et par ce fait-là, les bactéries qui peuvent pénétrer le long du piercing, qui cicatrise jamais vraiment bien, d'autant plus que si c'est fait dans des circonstances un petit peu spéciales dans une boutique, eh bien on a des bactéries qui peuvent passer dans le sang, ouais, qui peuvent entraîner des bactériémies avec des infections à distance, et surtout ça peut entraîner des infections locales, des phlegmons, à un carrefour dans une région tout à fait sensible, notamment c'est le carrefour aérodigestif, et avoir des conséquences tout à fait dramatiques. On a eu des cas comme ça, avec hospitalisation, où le pronostic vital peut être mis en jeu.
Donc vous dites clairement qu'il y a des risques, hein. Il faut le savoir.
Le piercing de la langue, oui. Que les gens se mettent des piercings dans les oreilles, ben, c'est les boucles d'oreilles, hein. Ça pose pas de problème. Dans les narines, dans les lèvres, éventuellement, ou autre, mais dans la langue, non.
Attention.
Non. La langue, c'est extrêmement dangereux, et je dirais même, j'ajouterais que la pose d'un piercing dans la langue, c'est un exercice illégal de la chirurgie, hein. C'est clair.
Christophe nous dit sur Twitter, étant jeune, je ne faisais que me mordre la langue. Est-ce qu'il y a des raisons particulières? Qui veut répondre? Bernard Pella?
Oui, volontiers. Bon, c'est un problème de coordination entre l'élévation de la mandibule, c'est-à-dire la fermeture de la bouche et les dents qui se rejoignent. Oui. Et puis... écarter la langue, c'est un problème de coordination qui peut être lié à l'alimentation, c'est-à-dire que comme la langue est extrêmement sensible et que c'est elle qui va promener le bol alimentaire à l'intérieur, oui, bah, il peut y avoir une petite difficulté de coordination.
Et mais c'est un organe ultra douloureux, la langue.
C'est
quand on se mord la langue, justement.
C'est un muscle, donc un muscle, de toute façon, c'est très sensible, qui est extrêmement innervé, car la langue, bon, on parle beaucoup aujourd'hui, en ce moment, de son caractère moteur, mais ouais, c'est un organe sensitif extrêmement sophistiqué. Et par définition, bah, dès qu'on y touche, ça fait mal.
Daphné Parmel nous dit ceci, mon bébé âgé d'un mois présente un frein de langue trop court, certains conseillent de le couper lors d'une intervention qu'on m'a présentée comme bénigne, ceci pouvant gêner la prise de poids et l'élocution, d'autres considèrent cette opération comme une mutilation, qu'en pensez-vous? Didier Gauzeran.
Oui, c'est la phrénectomie linguale qu'on fait régulièrement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas utile de la faire lorsque l'enfant est à un stade de bébé, ne nourrisson. Il vaut mieux attendre que l'enfant soit vu par un orthodontiste, mm-hmm, qui lui va poser l'indication d'une phrénectomie, parce que cette langue que l'enfant ne peut pas tirer va entraîner des difficultés d'élocution en particulier, des difficultés dans la mastication, des difficultés dans la déglutition, mm-hmm, éventuellement, et ce sont des interventions qui sont simples, banales, bien codifiées, sans grandes conséquences post-opératoires, et que personnellement je ne pratique que rarement avant l'âge de 7-8 ans, mm-hmm, lorsque l'enfant est plus malléable, entre guillemets, au niveau chirurgical. Et en tout cas, en aucun cas, ça ne doit être considéré comme une mutilation. Ça, en aucun cas.
La langue, organe du goût, évidemment, on va en parler avec vous dans un instant. Et pour ouvrir ce chapitre, voici Une affaire de goût, ce film de Bernard Rapp. Et vous allez reconnaître la voix de Bernard Giraudot dans cet extrait.
Et voici, messieurs, le pot-au-feu de pigeon.
Allez-y, goûtez.
Mmh. Ah, c'est divin.
Et je vous demande pas si c'est bon, je connais ce plat par cœur. Mais savoir si vous distinguez quelque chose de particulier dans la sauce.
C'est très très onctueux. Rail, oignon, puis le parfum du citron.
Il y a quelque chose de particulier qui fait toute la différence. Alors ? Ah ben non, il y a du boulot. Hein. Philippe, dans son bouillon, rajoute une infusion de verveine.
Ah, mais bien sûr.
Vous comprenez, mon petit Nicolas. Je veux que nous ayons le même palais, les mêmes papilles, le même odorat. Dans quelques mois, si tout va bien, s'il nous arrive de déguster une épaule de mouton en musette, je n'aurai plus besoin de vos commentaires pour me rassurer. Je dirais dans vos yeux que nous partageons le même plaisir.
Voilà, Bernard Pella, est-ce qu'on peut avoir le même palais, les mêmes papilles que les personnes avec lesquelles on mange la même chose ? Évidemment.
Alors, bien sûr, on a les mêmes papilles, mais finalement, vous et moi, nous partagerions le même mets, nous ne le percevrions certainement pas de la même façon. Ce qu'on appelle la gustation, en fait, c'est quelque chose de compliqué. Il y a les saveurs un peu élémentaires qu'on a évoquées, on en décrit cinq à l'heure actuelle, qui sont des éléments qui sont mis en solution par la salive, donc rôle très important de la salive. Ouais. Manger un gâteau sec sans salive, c'est absolument impossible et on ne perçoit rien. Donc il y a une mise en solution qui fait suite à la mastication, c'est-à-dire à la fragmentation du mets, qui augmente la surface évidemment de dissolution. Et donc il y a cette perception du goût par les papilles qu'on a décrite sommairement tout à l'heure. Par contre, la perception de toute la saveur d'un aliment, elle ne repose pas que là-dessus. Elle repose sur d'autres sens, sur ce qu'on appelle l'olfaction, qui n'est pas à proprement parler linguale, et plus particulièrement la rétro-olfaction. Alors rétro-olfaction, c'est ce que nous sentons. Alors on a l'habitude de la décrire par le nez. En fait, la rétro-olfaction est beaucoup plus sensible que ne l'est l'olfaction elle-même, pour une raison simplement anatomique, c'est que le nez est obstrué par des cornets et quand on inspire quelque chose par le nez, ça ne va pas en ligne droite et en plus c'est à la température de la pièce dans laquelle on se trouve. Quand par contre quelque chose est un aliment qui a effectivement une odeur, arrive dans la cavité buccale, il est monté à 35-37 degrés, il est fragmenté, il est mis en solution et il est perçu par voie dite rétro-olfactive, c'est-à-dire par les coanes, c'est-à-dire par la jonction entre le nez et le pharynx. Et là, c'est un trajet qui est totalement en ligne droite. Donc à la fois, on a une tension de vapeur, pour parler scientifiquement, qui est beaucoup plus importante, donc une mise en gaz qui est beaucoup plus importante, et puis un chemin qui est tout droit. Ouais. Et donc, il y a une perception rétro-olfactive qui est beaucoup plus importante.
Et on voit l'effet du rhume d'ailleurs. Hein. Quand on est enrhumé, on voit la modification du goût.
On ne perçoit plus rien.
Si on essaie de boire un café en étant enrhumé, on va trouver le goût extrêmement différent.
On va sentir l'amertume et on ne va pas sentir les saveurs agréables qui sont contenues dans le café. Ouais.
Et c'est cette rétro-olfaction donc qui est en jeu précisément à ce moment-là ?
C'est elle qui est en jeu, elle est tout à fait fondamentale et j'insiste bien sur le fait qu'elle est beaucoup plus sensible que l'olfaction directe. Ouais. C'est-à-dire que pour bien percevoir par exemple vin, c'est beaucoup plus facile de le faire en l'ayant dans la cavité buccale qu'en sentant sur le verre.
Ouais. Donc il y a toute une chaîne finalement sensorielle qui opère autour du goût précisément,
entre
la langue et le cerveau, parce qu'il y a une cascade d'effets en fait.
Tout à fait, donc ça repose à la fois donc, sur la gustation donc, par ces fameuses papilles du goût qui sont réparties sur la langue, par cette rétro-olfaction, donc par tout ce qui est mis en solution, avec, on a décrit 350 gènes codant des protéines récepteurs de l'olfaction. Ouais. On en a décrit une cinquantaine pour le goût. Chacun n'étant pas très spécifique, il y a une discrimination qui est extrêmement fine et donc qui permet de recueillir une très grande variété. Et puis j'ajouterais le fait que cette mise en solution par la salive est effectivement patient dépendante, sujet dépendante, parce que nous n'avons pas la même salive et à un moment donné, moi-même à 14h44 et à 16h30, j'aurai pas la même salive.
Ça change tout au long de la journée. Jean-Michel nous dit ceci, ma mère âgée de 87 ans dit qu'elle ne ressent plus le goût, elle ne semble pas s'en inquiéter parce qu'elle pense que c'est normal à son âge. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est jamais normal. Les personnes âgées ont un certain nombre de troubles de la salivation qui sont non pas liés à la sénescence, les études les plus récentes le montrent, mais qui sont liés à la multimédication. Plus vous êtes âgé, plus statistiquement vous consommez de médicaments. Et il y a une corrélation extrêmement étroite entre le nombre de médicaments que vous prenez dans une journée et cette salivation.
Mmh. Didier Gauzeran, là-dessus, justement, sur le rôle des médicaments, les antibiotiques, par exemple, corticoïdes
Oui, alors pour rester dans le domaine de la gustation et de la dilution au niveau de la salive, tous les sujets qui vont présenter des hypocyalies, c'est-à-dire des déficits salivaires, bon, on va avoir des gustations perturbées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de ces hypocyalies, elles sont liées à des médicaments, et en particulier aux médicaments psychotropes, que ce soit anxiolytiques, antidépresseurs, etc., dont on sait que la France est l'un des consommateurs
champions en Europe et dans le monde.
Champion en Europe et dans le monde, exactement. Mmh. Et ces médications-là vont avoir un effet sialoprive, c'est-à-dire qu'il va entraîner un déficit salivaire très important. Et ça, ça représente 80% quand même des causes d'hypocyalie. Mmh. Et puis, bon, il y a d'autres causes. Les gens qui ont eu des radiothérapies cervico-faciales pour des problèmes de cancer, des gens qui sont sous chimiothérapie éventuellement, des gens qui ont des pathologies plus rares et plus sérieuses, comme des maladies de Gougerot qui entraînent des syndromes secs, à la fois salivaires, à la fois lacrymales, vont avoir des perturbations, évidemment, du goût tout à fait majorées.
Allez, on se retrouve dans un instant, on évoquera quelques pathologies, puis on va parler du baiser quand même. C'est intéressant, il y a beaucoup de questions également là-dessus sur franceinter.fr. Django Django à l'instant.
La tête carrée sur France Inter.
Autour de la langue, voilà notre dossier avec mes invités Didier Gauzeran et Bernard Pella et vos messages très nombreux, tous azimuts d'ailleurs, avec beaucoup de questions variées. Catherine demande par exemple par mail s'il faut se brosser la langue, Didier Gauzeran. Les dentistes, mais, parfois le conseillent. Hein.
Écoutez, si la langue présente des dépôts qu'il est nécessaire de retirer, oui, il y a d'ailleurs des brosses à langue particulières spécifiques. Ouais. Alors, je pense qu'il faut effectivement le faire. Par contre, si on a des langues qui sont un petit peu des glossies, c'est-à-dire des inflammations de la langue, avec même éventuellement quelques dépôts, je ne conseille pas forcément de le faire, parce qu'à ce moment-là, ça va irriter davantage.
C'est ça. Et pour les papilles gustatives, par exemple, le fait de se brosser la langue, Bernard Pella, il n'y a pas de problème particulier ? On risque pas d'alter
Au contraire, elles sont solides et de toute façon, les cellules réceptrices, les cellules sensitives, celles qui perçoivent effectivement le goût, se renouvellent tous les 10 jours et donc le brossage ne peut au contraire que favoriser le squam, enfin la désquamation, donc l'élimination effectivement des cellules, des résidus de cellules mortes.
Ce qui est important, c'est de faire de manière, je dirais, soft. Oui, voilà, pour ne pas être agressif.
Oui. Mais donc, par contre, se laver la langue ou la brosser, c'est aussi avoir une langue propre et fraîche pour le baiser, par exemple.
Tourne pas toujours ta langue dans le même sens.
Mais attends, mais c'est mon style de roulage de pelle. Chacun son style de roulage de pelle. Heureusement que tout le monde n'a pas la même technique. Chacun sa technique.
Et t'as embrassé qui déjà?
Bah, des autres gens. Des filles, des italiennes.
Attends, les autres qui nous mettent là. J'y vais, à demain.
Voilà, le baiser, la langue, Bernard Pella, il faut en parler quand même, ça c'est important. On a évoqué des choses pas très drôles tout à l'heure, mais enfin là, on a quand même des choses intéressantes. On ouvre le dossier avec vous, là, attention, c'est très sérieux.
On va en parler très 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 sérieusement, oui, c'est... Alors ça n'a pas toujours existé, hein. L'homme, je ne sais pas trop comment on le dit, mais on dit que l'homme préhistorique n'aimait pas trop s'embrasser. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder effectivement nos grands ancêtres, et les hominidés, les grands singes, quand ils sont adolescents, pratiquent volontiers le French kiss, ou le baiser florentin, comme on disait au 19e siècle, ou le baiser profond, mais les adultes l'abandonnent. Oui. Alors on ne trouve pas ça chez les autres animaux, mais ils utilisent leur langue, hein. C'est-à-dire qu'on voit les animaux se lécher autour de la bouche, ou se lécher les parties à nos génitales, donc est une autre approche. Chez l'homme, effectivement, ça se pratique pas dans toutes les cultures d'ailleurs, mais enfin c'est maintenant largement répandu.
Voilà. Mais le French kiss est célèbre dans le monde entier justement.
Il est célèbre, il est célèbre, et peut-être qu'effectivement les Français qui ont peut-être une acuité linguale plus développée que les autres, en rapport avec la cuisine, l'ont peut-être aussi par le baiser.
Ah oui, association intéressante,
je sais pas.
Interprétation libre.
C'est moi qui l'a fait. Alors sur ce baiser, qu'est-ce qu'on peut dire?
Qu'est-ce qui se passe justement quand deux langues se rencontrent?
Alors quand deux langues se rencontrent, elles s'explorent grâce à la très grande mobilité de cette langue, et donc il peut permettre de faire des choses extrêmement imagées et variées. Et puis, il y a un échange. Alors, il y a eu de la littérature qui a été publiée il n'y a pas très longtemps là-dessus.
Pas terrible, d'ailleurs.
Oui, mais il ne faut pas s'en inquiéter. Alors, on peut en dire quelques mots.
Sur l'échange de bactéries, c'est ça,
voilà,
entre autres.
Voilà, oui, cet article, là, qui est tout récent, de quelques mois, dit qu'on échange 80 millions de bactéries sur un baiser profond de 10 secondes. C'est tout à fait plausible, puisque le fluide oral, enfin, cette salive qui baigne notre cavité buccale, abrite entre plusieurs millions et plusieurs milliards de micro-organismes. Par millilitre.
Oui.
Donc il n'est pas étonnant que...
Donc
quand
on fait un petit leg de bactéries à chaque baiser profond, c'est ça?
Voilà. Alors ce qu'on constate, c'est qu'un vieux couple a une flore qui est assez comparable, enfin à 50% près, à peu près la même flore.
Ah bon?
Oui, tout à fait. Mais il y a d'autres choses, d'observations qui sont amusantes. Un bébé qui naît, un nourrisson qui naît, est absolument, a une bouche qui est absolument aseptique. Hein. Il n'y a aucun germe dedans. Et si on le prend 6 heures après, on peut reconstituer qui l'a approché. On va retrouver la flore de la sage-femme, la flore de l'infirmière, la flore de la maman, la flore du papa s'il est là, et des grands-parents s'ils sont venus lui faire quelques poutounes. Donc on retrouve... Et là, il ne s'agit pas d'un baiser profond, hein, s'agit effectivement simplement de baiser autour de la cavité buccale.
Bon, Didier Gauzran, il faut s'en inquiéter de ces petits, ces millions de bactéries ou pas?
Non, alors moi je ne me placerai pas sur ce plan-là, et je reviendrai à la langue encore une fois dans ses fonctions sexuelles. Et là, ça peut être plus sérieux dans la mesure où on peut déplacer des papillomavirus humains, je vais arriver à le dire, le fameux HPV, 16 ou 18, qui sont des virus oncogènes. Et ce qui a fait titrer une fois, je me souviens, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, le quotidien du médecin qui avait titré en gros « Le cancer de la bouche est-il une maladie sexuellement transmissible ?» Et effectivement, on peut se poser la question dans la mesure où le HPV représente à peu près 14% des cancers viraux induits au niveau de l'amygdale. Et au niveau de la cavité buccale, on estime à 4% le taux de ces cancers viraux induits par HPV 16, ouais. Surtout 16.
Bon, donc c'est pas négligeable, effectivement.
C'est pas négligeable dans, oui. Au niveau bon. De la langue, dans sa fonction sexuelle.
Bon, et ben justement, il faut apprendre à se laver la langue dans ces cas-là ou pas? Alors, on parlait de la brosser tout à l'heure, ça peut éviter
il est évident qu'on
des désagréments.
On pourrait conseiller à toutes fins utiles, au minimum, de faire des bains de bouche antiseptiques.
Un petit conseil après le baiser profond.
Après la relation sexuelle.
Il y a un gros avantage à avoir une très très grande diversité microbienne dans la cavité buccale. Ce qui est dangereux dans une bouche, c'est d'avoir une espèce qui devient dominante.
Un déséquilibre.
Et qui crée un déséquilibre et qui va devenir pathogène. Mmh. Nous avons des tas d'espèces pathogènes
en permanence. Ça c'est un bon message, au moins c'est positif. Voyez,
mais oui, tout à fait. On a plein d'espèces pathogènes dans la cavité buccale qui ne s'expriment pas s'il y a une répartition harmonieuse. Ouais. Là, nous avons environ 600 ou 700 espèces microbiennes dans la cavité buccale différentes. On a intérêt à cultiver effectivement cela. Alors je dis pas, j'encourage pas effectivement d'embrasser tout le monde, car comme le disait Didier Gautran...
L'être aimé, déjà, c'est pas mal.
Oui, c'est bien. Par contre, il y a le HPV, il y a le virus de l'herpès. Bon, embrasser quelqu'un qui a un herpès, c'est à éviter. Quelqu'un qui a qui fait une angine,
c'est à éviter.
Et d'autres, quelques autres pathologies. Par contre, c'est pas vrai pour le sida, c'est pas vrai pour un certain nombre de maladies.
Didier Gautran, sur les cancers de la langue, la France est deuxième après l'Inde au niveau mondial, c'est ça?
Alors, le taux de cancer, la France est peut-être en train de perdre cette place non enviable, mais en tout cas, elle est dans le peloton de tête, ça c'est clair. Mm-hmm. Ça c'est lié à l'intoxication alcoolo-tabagique qui est assez importante.
C'est l'association tabac-alcool.
L'association tabac-alcool est tout à fait délétère, avec une synergie très importante, pas avec une addition des risques, mais une multiplication des risques, à tel point c'est que certains départements, comme le Nord-Pas-de-Calais en France, ou certaines régions de Bretagne, de Normandie, ou de l'Est de la France, sont parmi les champions européens et les champions mondiaux en matière de cancer de la cavité buccale, et plus largement des cancers des voies aérodigestives supérieures, c'est-à-dire lèvres, bouche, pharynx et larynx.
Allez, on termine avec une question un peu plus réjouissante pour se quitter. Damien nous dit ceci. Pourquoi le chat a une langue plus râpeuse que l'homme et à quoi ça sert? Alors, la langue du chat, la langue du chien, là aussi, il y aurait plein de choses à dire.
C'est une question d'anatomie et de fonction de la langue. L'anatomie, les chats des papilles filiformes beaucoup plus importantes, beaucoup plus kératinisées, plus rêche, il suffit de se faire lécher par un chat pour s'en rendre compte. Et puis c'est une question de fonction aussi, le chat se sert de sa langue pour laper, comme le disait Bernard tout à l'heure en aparté, ça servait aussi pour se nettoyer, se lécher, etc.
Et la langue du chien? C'est un régulateur de la température.
La température. Donc, quand on voit le chien qui allaite et qui pend la langue avec la langue qui coule, et bien effectivement, sa transpiration, l'élimination, la régulation de son équilibre hydrique.
Voilà.
Et ça, se fait effectivement par sa langue.
Merci beaucoup à tous les deux. Il y avait énormément de questions, beaucoup de thèmes qu'on n'a pas eu le temps d'aborder d'ailleurs. Il faudrait quasiment faire une seconde tête au carré autour de la langue. En tout cas, les messages se poursuivent sur franceinter.fr et vos ouvrages, les références bibliographiques sont sur le site de la tête au carré. Fabrice Drouel, très intéressé par la langue. Je l'ai vu à votre œil.
Un peu effrayé, on va peut-être laisser notre langue dans notre poche.
Voilà, de quoi on va parler avec vous dans Affaires Sensibles?
C'est-à-dire on perd notre emploi. Hein. Alors, en 2005, les émeutes dans les banlieues françaises, vous vous souvenez, et nous en parlerons avec Olivier Klein, qui sera notre invité, qui est le maire actuel de Clichy-sous-Bois, là où tout avait démarré, il était adjoint au maire à l'époque, premier adjoint.
Merci Fabrice.